Frères et sœurs, pour comprendre le sens des lectures que nous venons d'entendre, et pour comprendre pourquoi il est question de joie aujourd'hui et de quelle joie il s'agit, il faut avoir un peu de connaissance historique, en tout cas connaître un peu le contexte dans lequel ces passages ont été rédigés. C'est plus difficile d'ailleurs pour le livre d'Isaïe que pour l'Évangile, on comprend bien l'Évangile, on n'a pas trop de mal. Pour le livre d'Isaïe, qui est ce prophète Isaïe et quand écrit-il dans l'histoire d'Israël? Quand traduit-il la parole de Dieu? Isaïe écrit à peu près 8 siècles avant Jésus, et le royaume d'Israël, enfin le peuple d'Israël, est dans une période pas très reluisante. L'histoire d'Israël, ce n'est pas une histoire rectiligne, hein, linéaire. C'est compliqué, c'est chaotique même l'histoire d'Israël. Et cette période où vit Isaïe est une période où le peuple d'Israël s'est divisé. On parle d'un schisme, d'une division profonde, d'une division religieuse. 10 tribus ont fait sécession et ont constitué ce qu'on appelle le royaume du Nord ou le royaume de Samarie, du nom de la capitale qu'ils se choisissent, et une seule tribu est restée autour de Jérusalem et, on pourrait dire, entretient un peu le flambeau à Jérusalem, en tout cas maintient quelque chose autour du temple de Dieu. Et ces 10 tribus du Nord vont être déportées par le grand royaume, la grande puissance de l'époque, qui est le royaume d'Assyrie au Nord. Vont être déportés vers Ninive et ses alentours. Et donc il ne reste à l'époque d'Isaïe que la petite tribu de Juda qui représente de manière visible le peuple de Dieu, mais vraiment réduit à la portion congrue. Lequel royaume de Juda et la capitale de Jérusalem subit les assauts de la puissance assyrienne. Et il faut, pour espérer un peu, non pas simplement mettre sa confiance en des forces humaines, parce que ça ne suffit pas, parce que le petit royaume d'Israël, en tout cas le petit royaume de Juda, ne pèse pas lourd devant la grande puissance assyrienne. C'est un peu l'équivalent de David et Goliath. Hein. Mais il faut faire confiance à Dieu. Il faut s'appuyer sur le Seigneur, sûr que le Seigneur va intervenir. Et pourtant, les signes ne sont pas là. Beaucoup d'infidélité, même dans le royaume de Juda. Et quelques temps après, ce n'est plus la puissance assyrienne qui dominera cette région, mais la puissance perse. Et quelques temps après, le royaume de Perse écrasera Jérusalem, rasera Jérusalem et déportera la tribu de Juda, ce qui restait, le petit reste du peuple de Dieu, le déportera à Babylone. Alors vous voyez, c'est pas très reluisant, hein, c'est pas réjouissant. Et les choses de cet ordre-là, hein, on pourrait parler de politique internationale, n'arrivent jamais comme ça tout d'un coup. C'est pas un météorite qui tombe sur la Terre, c'est des choses qui se préparent, qui on sent que l'ambiance n'est pas bonne. Voilà, et Isaïe intervient quand Jérusalem doit résister tant bien que mal à la Syrie. Et Isaïe prédit la joie, le retour d'Israël, du peuple de Dieu dans la ville sainte, avec joie, alors que rien à l'époque n'est signe de joie. Et pourtant Isaïe ose dire « Réjouissez-vous de l'action du Seigneur ». Bon. Et l'Évangile, c'est pas tellement mieux. Hein. Dimanche dernier, on entendait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui annonçait, préparait le chemin du Seigneur, qui disait, qui interpellait de manière virulente les pharisiens, les sadducéens, engeance de vipères, vous vous souvenez? On aurait dit le capitaine Haddock. On a les références qu'on peut, je suis désolé. Et, Et Jean-Baptiste était fort par sa parole pour annoncer le Seigneur. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste croupit dans sa prison, dans son cachot. Hérode l'a fait taire, parce que Hérode est dérangé par la parole de Jean-Baptiste, qui lui reproche son comportement immoral. Donc il a mis Jean-Baptiste au cachot. Bon, comme Hérode est un peu scrupuleux, ou qu'il a encore un minimum de conscience, il a un peu d'admiration quand même pour cet homme hors du commun, et il n'ose pas le mettre à mort. Enfin, le résultat des courses, c'est quoi? C'est que Hérode a laissé croupir Jean-Baptiste dans son cachot. Il est oublié, Jean-Baptiste. Et voilà qu'il s'inquiète dans l'état dans lequel il est, là, au fond de son trou. Est-ce que vraiment il était à sa place? Est-ce que vraiment il a eu raison d'annoncer la venue du Messie? Est-ce que vraiment Jésus est le Messie? Quel signe de ce Messie? On peut dire, Jean-Baptiste, pour lui, il n'en voit pas beaucoup des signes dans son cachot. Et voilà que Jésus le rassure en lui disant « La parole d'Isaïe s'accomplit ». Les signes sont donnés, mais quels sont ces signes? Jésus reprend textuellement Isaïe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. On peut penser aux miracles de Jésus, mais les miracles de Jésus, on sait bien que ça n'a pas été accepté si facilement. Ça ne saute pas aux yeux, c'est pas de l'ordre de l'extraordinaire. C'est pas de l'ordre du clinquant. Non, les signes que Jésus donne... rappels sont des signes pauvres. D'ailleurs, quand le monde va mal, qui se soucie encore des pauvres? Tout le monde se sent pauvre, donc du coup, on ne regarde plus les pauvres. Et du coup, on n'est pas tourné vers les vrais signes que Dieu donne. Parce que les signes que Dieu donne, effectivement, ne sont pas des signes qui brillent. Êtes-vous allé voir un homme, dit Jésus, êtes-vous allé voir un homme habillé avec des vêtements somptueux? Mais ce n'est pas au désert que vous allez le trouver, c'est dans la cour des rois. Donc vous êtes allé voir un prophète, Jean-Baptiste, vivant pauvrement, sobrement, se nourrissant de trois fois rien, mais un homme qui a une parole forte. Bon, voilà. En fait, quand aucun signe n'existe autour de nous, aucun signe évident, c'est pas une raison pour perdre l'espérance. On pourrait faire... Je ne veux pas m'attarder, mais on pourrait faire un parallèle avec le monde actuel, avec l'état de la société, avec ce qui se passe au plan international, et peut-être aussi dans nos propres vies, à titre personnel. On n'a pas toujours des grands signes d'espérance. On a parfois plus des inquiétudes dans notre entourage. Et, à la fois par Isaïe, à la fois par le Seigneur, nous entendons, ça n'est pas une raison pour perdre l'espérance. Réjouissez-vous. Alors quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une joie factice? La joie de Monsieur Coué, où il faut répéter pour s'en convaincre, et faire un peu semblant finalement d'être joyeux? Alors, on est chrétien, il faut quand même bien qu'on ait un visage un peu joyeux. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Je crois que aujourd'hui l'Église... dans ce troisième dimanche de l'Avent, nous invite à une joie qui est beaucoup plus profonde, à la joie vraie, pas la joie éphémère, pas la joie que cherchent tant de nos contemporains qui, effectivement, autour d'eux ne trouvent pas grand-chose, alors s'étourdissent dans des choses qui, finalement, ne rendent pas joyeux, sauf peut-être sur le moment, mais après, mettre dans une très profonde tristesse. Charles de Foucault, qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, disait, au sujet de l'époque avant sa conversion, lui qui faisait la fête tout le temps et qui dépensait beaucoup d'argent et invitait des amis à des grandes fêtes, il disait dans sa méditation, après en relisant, il disait « Seigneur, dans tout ça, moi, j'étais pas joyeux. En vrai, mon cœur était triste. Je pouvais bien organiser des grandes fêtes, mais je sentais bien au fond de moi-même que c'était pas ça la joie. » Alors quoi? Quelle joie? Une joie profonde. Une joie intérieure. La joie de la présence de Dieu, et cette présence est si simple, si petite, humble, qu'il faut vraiment ouvrir les yeux pour la voir. Est-ce que je peux vous partager au moins, parce qu'on n'est pas encore trop, hein, ça fait 3 mois que je suis là, hein, vous partager ce qui fait ma joie aujourd'hui. Ça n'est pas les grandes nouvelles, les grandes affaires, les rouages qui tournent bien. D'abord, ça ne tourne pas bien, et puis... et puis, c'est pas ça. La joie, elle est à chercher ailleurs. La joie, c'est effectivement dans les signes que Dieu donne de tous ces pauvres qui reçoivent l'Évangile. De tous ces gens qui, parfois, sont un peu étrangers à l'Église et puis tout d'un coup sont touchés par quelque chose de lumineux. C'est la joie de tas de rencontres toutes simples où on sent une soif de Dieu. C'est ça la joie d'un prêtre, il me semble. Et la joie d'un missionnaire, donc d'un baptisé aussi. C'est de découvrir qu'en fait il y a des choses très simples autour de nous où Dieu agit. C'est en fait, finalement je me dis, c'est la joie du petit enfant que nous procure le petit enfant dans la crèche, cet enfant Jésus. Ça ne brille pas. C'est banal, on pourrait dire. Et pourtant, c'est une grande joie. Les bergers vont se prosterner devant cet enfant né à Bethléem. Les rois mages, venus d'on ne sait où, vont se prosterner devant le signe de cet enfant avec sa mère. Mais ça ne brille pas. Et pourquoi ? Parce que c'est une joie du cœur. C'est un signe très simple que Dieu donne de son action, de son pouvoir. Le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, pardon. Ça n'est pas de faire des trucs extraordinaires qui déplacent les foules, etc. La puissance de Dieu, c'est de toucher les cœurs et de les ouvrir. Elle est là, la joie. Il est là le motif de la joie, la vraie joie. Alors, les signes extérieurs, les choses de notre vie, les événements de notre vie peuvent parfois être tristes, parfois être compliqués. Les signes que Dieu donne de sa présence sont ailleurs, sont plus simples, plus ordinaires, et il faut les guetter, il faut les découvrir. Et je crois vraiment que Jésus nous invite à cela. Et quand Jésus nous dit que dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand encore que Jean-Baptiste, alors que pourtant, quel grand prophète, Jésus veut nous dire en fait, celui qui vit de ma présence trouve une très grande joie dans cette manière de vivre, un très grand bonheur. Celui qui vit de la foi vit dans la joie. Au-delà de tout ce qui peut peut-être l'inquiéter. J'ai retrouvé une très belle phrase de Mère Teresa de Calcutta, qui disait « Ne laissez pas la tristesse vous envahir au point d'oublier la joie de la résurrection du Christ. » Quel est le vrai motif de notre joie ? C'est que le mal et la mort sont définitivement vaincus dans la résurrection de Jésus. Et que s'il nous apparaît encore qu'il y a comme un combat, qu'il y a comme une résistance du mal, le Christ est déjà victorieux et ce combat se joue en nous et nous attend d'une certaine manière. Soyons les associés de Jésus ressuscité pour le faire triompher, même dans ce qui est difficile. Apportons la joie du Christ ressuscité. Et voilà où est la vraie joie chrétienne. Non pas dans quelque chose d'extérieur, mais dans cette certitude que le Christ est vainqueur et que nous sommes appelés, nous, à vivre de cette victoire. Alors, cette joie sera celle dont Jean-Baptiste parlait avant d'être enfermé dans son cachot quand il disait qu'il se présentait comme l'ami de l'époux en parlant du Christ et il disait « Voilà ma joie et elle est parfaite, disait-il. Ma joie est parfaite. » Et Jésus, au soir du jeudi saint, dans ses dernières paroles à ses apôtres, leur disait « Je vous donnerai une joie que nul ne pourra vous ravir. » une joie éternelle. Pas la joie factice, pas la joie artificielle, la joie du cœur. Peut-être Saint Jacques, dans sa lettre, parlait-il de cela quand il disait « Soyez patients, tenez ferme, ne perdez pas la joie profonde, la joie du cœur. » Amen.